est à Radio Crapone, tout simplement. Ça, c'est très très bien aussi. Alors, donc, c'est ce Black Cobalt, ben, en fait, moi, j'ai pensé à eux parce que, bon, ils ont un son absolument terrible et incroyable, quoi. Ils ont vraiment l'image, finalement, de la country music, comment dirais-je, des années 40 et 50. Et moi, je voulais ça absolument. Il y avait d'autres groupes pour le créneau, mais j'ai dit, ben, ça va pas du tout. C'est assez trop rock et tout. Et eux, ben, finalement, ils ont vraiment un son qui correspond à la country music traditionnelle, évidemment, et vraiment la musique roots, carrément départ du Texas et compagnie. Enfin, vous avez vu la bio, mais autant répéter quand même un petit peu. Donc, ben, écoutez, pour les questions, ben, vous pouvez y aller maintenant. Allez-y en français. Il n'y a pas de souci.
Alors, première question, aller, toi, voilà, depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps qu'on vous voit évoluer, avec. Ça, j'en reviens. Donc, on ne peut pas vous suivre sur tous les concerts, forcément, c'est pas évident. Le point actuellement sur la formation et puis les projets à long terme, si c'est possible.
Le point sur la formation, bah c'est pour toi du coup, Paolo.
Ouais, c'est le dernier arrivé.
Nouveau point de l'information.
Ouais, bah écoute, il y a eu une faille spatio-temporelle de 2 ans, et avant ça, donc début 2019, je venais de rejoindre la formation, qui est la formation initiale Will guitare chant, Fabien guitare, enfin ça tout le monde le sait, je pense, Mathieu à la contrebasse, et moi je les ai rejoints en 2019 avec la steel guitare. Qui va parfaitement dans le son country, le dobro et le banjo pour une touche un peu acoustique, puis pour varier les timbres. Donc voilà, on s'est arrêté là il y a 2 ans et demi.
Novembre 2019.
Ouais. Novembre 2019, il y a eu le Covid, et puis là, on a repris il y a 15 jours une tournée avec Crapone en point culminant, point de mire de la tournée.
La polyvalence musicale vous amène à avoir des idées sur les prochaines créations aussi. C'est ça, d'apporter une certaine richesse sur les morceaux que vous allez composer ou vous allez reprendre, je ne sais pas. Parce que pour l'instant, c'est les compositions.
Non, tu verras, c'est un peu comme hier, un peu comme les Rhyolite Sounds, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de reprises de crowd pleasers, les chansons que les gens aiment, connaissent. Tu as vu qu'un petit Merle Haggard, un petit Waylon Jennings, bah nous, c'est exactement la même chose. Et on saupoudre de quelques originaux. C'est le même cas de figure, en fait.
Ah, d'accord.
Ouais. C'est la configuration de barre. Hein. Tu donnes ce que les gens veulent, et à un moment donné, tu glisses ce que les gens ne connaissent pas. Quoi.
Et dans le groupe, qui c'est qui compose
musicalement, on s'y est tous mis un petit peu, et puis au niveau des paroles, c'est moi.
C'est toi T'écris qu'en anglais, ou ça t'arrive d'écrire en français
Français, je saurais pas faire.
Tu saurais pas
faire en français. Faut essayer.
Comment
Tu veux dire, me la jouer Eddie Mitchell ou tout ça, ouais, elle a réussi quand même. Ses paroliers ont réussi, ouais. Ok.
Il y en a d'autres qui essayent.
Bah, à ce moment-là, c'est pour Mathieu, parce que Mathieu compose, mais en français.
C'est vrai.
Sur des sonorités qui peuvent se rapprocher du folk.
Ouais, mais après, country, folk,
ouais, bien sûr.
Ça se mélange. Les inspirations quand tu écris en anglais, c'est simplement que c'est parce que c'est plus facile. À écrire en anglais parce que les rimes, etc. Parce que le son.
Par rapport à ce que je lis en ce moment, c'est que l'anglais, donc c'est ce qui me vient. Puis les dernières créations, les derniers originaux, c'était par rapport à un voyage aux États-Unis qu'on a fait.
Ouais.
Tout était relié à ça en fait. Donc il y avait une motivation. C'était par rapport à un voyage parce que ça se prépare.
Moi j'ai vu des clips où vous étiez aux États-Unis.
Ça se prépare pas comme ça, donc ça a pris du temps. Et puis au niveau de l'inspiration, c'était aussi ça.
Et t'as écrit au retour ou t'as écrit déjà là-bas ?
Prévision, ça avait enflammé mon. Moi je connais bien les États-Unis, mais on a fait des choses que j'avais jamais faites de ma vie et que eux non plus. Par exemple, aller à Austin. Oh, c'était un rêve ça, mais c'est loin, c'est quoi, il faudrait atterrir à Dallas pour y aller. J'avais jamais pu aller à Big Bend National Park, c'est un des parcs les plus difficiles d'accès parce que c'est au sud du Texas. On n'y avait jamais été. Et donc en prévision de ça, on avait composé, puis ensuite il n'y avait plus qu'à tourner des petites choses pour s'amuser une fois là-bas. Hein.
C'est ça.
Tu n'avais pas une formation un petit peu auparavant, un peu rockabilly
Avec Mathieu, on avait un groupe qui s'appelait The Swinging Dice. Dice, c'était rhythm and blues, swing, rock'n'roll. Alors, c'était pas vraiment rockabilly, mais on va dire plutôt rock'n'roll.
Rock'n'roll, d'accord. Ouais.
Mais bon, comme on aimait bien la country à côté et qu'on aimait bien le rockabilly aussi, il y avait des choses qui pouvaient aller un peu dans ce sens-là, mais c'était quand même. Ouais, pas mal, on a fait pas mal de swing, ouais.
D'accord.
Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Mathieu est arrivé dans les Subway Cowboys, parce que tous les deux, on jouait déjà avec ce groupe. Et au départ, Subway Cowboys, avec Will, on n'était que deux, Subway Cowboys, parce qu'on jouait dans le métro parisien tous les deux.
Ah, ouais.
Et après, on a fait quelques bars, etc. Et Mathieu, qui jouait avec moi déjà dans les Swinging Dice, on lui a proposé de nous rejoindre, ce qui fait qu'on était en trio pendant de longues années. Vous avez dû nous voir en trio, de toute façon.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà. Voilà. Et après, le batteur des Swinging Dice avait rejoint les Subway Cowboys. Donc, il y avait, voilà. Il y avait des membres communs dans les deux groupes.
Il était à la Révolution aussi.
Il est à l'armée.
Yeah.
Il est à l'armée.
Ah, oh, sérieux?
Ouais.
Il est
donc, c'est fini, là.
Ah, ouais, d'accord. Ouais.
Ah, c'est fini pour pas longtemps.
Combien de temps il va y rester, ça on n'en sait rien. Mais pour l'instant, c'est son trip.
Et là, on est revenu à une formation sans batterie, ce qui est pas mal aussi.
Ouais.
C'est à l'ancienne. Alors, ça nous. Si tu veux, c'est pas si évident, parce que quand t'as joué avec un batteur pendant quelques années, qui tient bien la baraque, et ben nous, maintenant, on doit se remettre bien dans le tempo sans batterie, une autre affaire. Mais c'est bien
vous
aussi.
Vous avez un contrebassiste au moins, non?
Oui, bien sûr, Mathieu.
Donc à partir de ce moment-là, la contrebasse, elle peut être un élément pratiquement aussi fort que la batterie.
Ah, bien sûr. Mais c'est différent. Oui, c'est pas la même approche. C'est. Enfin.
Oui, oui. Et des fois, tu prends la caisse claire aussi. Quand même.
Oui, je prends un peu la caisse claire.
Mais ça, c'était pas forcément parce qu'on avait plus de batterie. C'est juste qu'il y a certains morceaux où le dobro se suffisait juste dans l'arrangement. Et Fabien disait, en fait, la guitare, elle sert pas à grand chose. Du coup.
Oui, parce que Paolo est soliste, comme moi j'étais soliste dans le groupe aussi, donc faut pas qu'on se marche sur les pieds. On serait parti le boulot.
Voilà. Exactement.
Automatiquement, Mathieu, toi tu es d'un registre, je veux dire, tu faisais la contrebasse depuis longtemps, ou tu avais un autre instrument que tu pratiquais avant
La contrebasse, ça fait 13 ans ouais, que j'en fais.
13 ans.
Mais. Oui, je faisais de la contrebasse avant de jouer dans les Subway Cowboys.
Mais tu viens d'un côté au niveau musical classique ou non? Ou t'as trompé directement sur.
Non, je suis allé au conservatoire pour apprendre rapidement.
D'accord.
Mais à la base, c'était pour jouer avec Fabien dans les Swinging Dice. Okay. Donc c'était déjà pour jouer de la musique américaine. J'ai commencé un peu par ça, oui.
Et tu slaps quand même?
Oui,
fais
presque que ça.
Ah, d'accord.
Ouais, sans batterie, faut que ça.
Ah oui, il faut donner.
Ça ajoute un élément rythmique qui est pas négligeable.
Ouais. D'accord. Alors, le dernier arrivant, c'est ça, c'est le bidou, on appelle ça chez nous, dans la ligne de bidou. Donc, il est multi-instrumentiste.
Tiens, tu ne connaissais pas celle-là.
On l'a.
Un pro de l'argot, mais celui-là, il ne connaissait pas. Il vient de Lorraine. Hein.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup la mer chez nous. Alors,
l'argot
de marin en Lorraine, c'est quand même, ça passe.
Ça passe là. On l'a trouvé dans un bar. Il jouait de la musique hawaïenne.
J'ai cru que c'était dans une amie.
Et on s'est dit, tiens, il joue bien. Du coup, il a demandé de venir.
Tiens, il joue bien.
C'est vrai qu'il y a. La style dans la country, elle vient des Hawaïens. À 100%.
Ukulélé et compagnie.
Non, la style. Joue guitare hawaïenne.
Jerry. De l'ap style.
Avant que ça devienne les consoles à deux manches, puis d'accord. La pédale style fin 40, début 50. Donc avec l'essor mondial de la musique hawaïenne dans les années 10-20, les mecs, ils accompagnaient les medicine show.
D'accord.
Ce qui a permis à la guitare hawaïenne de pénétrer vraiment très profond dans la campagne américaine, puisque c'était l'attraction de l'époque, c'était nouveau. Pour que les mecs vendent leur babiole, il fallait bien avoir quelque chose qui appâte le chaland. Et comme ça, la guitare hawaïenne, Jerry Bird, quand même le plus grand joueur de style de Nashville, qui est parti finir sa carrière à Hawaï, lui, il raconte qu'il était dans un petit coin de l'Illinois, je crois. Et un jour, il a vu débarquer cette espèce de troupe, là. Tu vois ce que c'est, les medicine show?
Les
medicine show.
Medicine Show. Ouais.
Medicine Show, j'ai entendu parler.
Tu vois, Lucky Luke, tu vois, il y avait toujours un mec qui venait vendre la potion qui faisait repousser les cheveux.
Comme ça aussi,
Tu vois, Old Crow Medicine Show. C'était des marchands qui venaient pour vendre des lotions, des machins, tu vois, mais dans la campagne, tu vois, vraiment.
D'accord.
Et donc, ils avaient toujours des artistes avec eux pour pouvoir faire venir les gens. La guitare hawaïenne, elle est arrivée comme ça. Donc, moi, je faisais de la musique hawaïenne. Fabien, je sais pas comment t'as su. Enfin voilà. Et on était ici, je jouais chez eux en fait.
Ils jouaient en Picardie chez nous.
Alors quoi.
Et on l'a.
Moi j'aime bien c'est la guitare hawaïenne qui m'a amené, enfin la style qui m'a amené à la guitare hawaïenne et au western swing, à country, et du coup c'est des musiques quand même qui sont cousines, on va dire. Mm-hmm. Donc le pont s'est fait comme ça. Moi je viens pas de cette musique à la base.
Oui d'accord, ouais.
Mais par contre j'avais un instrument qui collait bien.
Et tu jouais du bluegrass aussi.
Je faisais du bluegrass aussi quand même, ouais.
Ah, avec ça tu as développé quoi en fin de compte.
Non. Ah,
bah, avec ton instrument tu as développé sur un autre style.
Oui, enfin la style du coup m'a permis, enfin le groupe m'a permis de développer, ouais. C'est
oui,
ça.
En gros.
Ouais. Mais c'est vrai que je fais aussi du dobro, tu verras, et du banjo, ouais, et ça je le faisais. Mais tu sais, dans un. Tu sais, en général. Enfin, c'est fréquent de compartimenter comme ça. Mmh. Tu vois, quand tu fais de la musique acoustique, ça demande quand même un sacré boulot. Et,
ah oui,
et la musique électrique demande un travail énorme aussi, rien que de connaissance des paramètres, tu sais, techniques, d'amplification, tout ça. Donc moi je faisais que de la musique acoustique.
Mais j'aime bien parce que la dobro c'est un instrument formidable. Je crois que c'est californien. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais.
Californien, j'avais des groupes comme le Desert Rose Band.
Okay.
Ça, c'est, j'adore, c'est des grosses références. Et je sais que au niveau Bakersfield commence à bien progresser dans ce style avec la dobro.
D'accord.
Ça va aller partout la dobro maintenant. Hein.
Ouais.
Ça me marie partout.
Ouais, bah tu sais, par exemple, le bluegrass, il a toujours conservé le seul écart qu'il a fait, la seule entorse qu'il a fait à la musique acoustique, c'est d'inclure de la basse électrique.
D'accord.
Mais sinon, banjo, violon, mandoline, dobro,
oui.
Guitare,
oui, tout à fait.
Ça a toujours été uniquement les instruments acoustiques.
Oui, tout à fait.
Tu vois. Et, sauf là, un peu de basse. Donc le dobro, il a perduré grâce à ça. Parce que si donc dès que les mecs ils ont mis l'électricité dans les guitares, le dobro il a disparu.
Il est
resté juste dans le bluegrass.
Ouais.
Après il revient par vagues comme ça.
Oui, dans le blues aussi.
Dans le blues il n'y a pas de dobro.
Il y a les nationales.
Ouais, mais ils jouent en standard.
C'est les guitares réseau.
C'est vraiment, c'est un peu la même différence entre le tennis et le ping-pong quoi. Tu vois, c'est. Non, mais je t'assure. Tu peux ne pas demander à un mec qui fait de la nationale au bottleneck de faire du truc
non,
à plat,
non,
sauf deux, trois.
C'est des instruments réseauphoniques, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont c'est fait pour déjà amplifier plus ou moins le son.
Ouais, alors là, c'est deux choses différentes. Il y a l'amplification et la manière de jouer. Parce que tu sais, les haut-parleurs en métal qui équipent les guitares à résonateur, donc ça c'est les derniers, c'est fin des années 20 quand la guitare électrique arrive. Mais la manière de jouer à plat, elle est complètement indépendante de ça. Ou de jouer en glissé, pardon. Tu peux jouer avec un résonateur et faire du swing manouche. C'est pas fréquent, mais ça marche.
Ouais, après tout instrument a sa façon. Il y a toujours quelqu'un qui va l'utiliser d'une manière différente.
Oui, mais tu comprends, c'est le cône en métal permet d'avoir plus de son, mais tu peux faire plus, tu peux jouer à plat, tu peux jouer normal, alors que dans le blues, ils jouent à 99%. Sur des guitares standards avec le bottleneck, qui est une technique vraiment différente du jeu à plat tel qu'utilisé dans le bluegrass. Non, parce que le terme dobro il veut tout et rien dire, et moi c'est normal que je mette un peu les choses au point quoi.
Mais si, j'espère ne pas me tromper, un virtuose cet instrument, on le voit sur beaucoup d'enregistrements avec de différents artistes, si je ne me trompe pas, je dis bien attention, un joker, hein. Jerry Lucas,
ouais. Oui,
c'est bien ça.
Eh ben c'est génial qu'il soit venu ici.
Tu l'as vu avec Peter Owen.
Ah ouais, alors ça.
Je me rappelle parce que j'avais posé une question parce que personne ne voulait poser une question. J'ai posé une question bête, la réponse a duré 10 minutes.
Ah ouais.
Ils n'arrêtaient pas à l'époque.
C'est des grands bavards. Comme moi.
Ah ouais, moi j'ai écouté.
Ouais, c'est super, Jerry Douglas.
Par exemple, les formations comme dans les années 80, les New Nashville 4 avec Mark O'Connor ou bien Dan Fogelberg.
Ah ben, sur
l'album, c'est génial.
Ouais. C'est cool.
Là, tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Il y a vraiment des grosses pointures et ils s'en donnent à cœur joie.
C'est l'album qui s'appelle d'ailleurs High Country Snows et qui a deux titres. Il y a Sutter's Mill et il y a un autre deuxième qui est vraiment très bluegrass, qui est bien. D'ailleurs, en fait, Dan Fogelberg, finalement, il a fait que du rock dans sa carrière, une carrière magnifique. Ouais. C'est le seul album de bluegrass qu'il a fait,
exact.
Mais il est absolument
somptueux. Ah, super, oui, somptueux.
Je vous le suggère de l'écouter.
Je te jure, vraiment.
C'est comment le nom du groupe?
High.
Le groupe, non, c'est Dan Fogelberg.
En fait, c'est l'album de Dan Fogelberg.
Dan Fogelberg.
Dan Fogelberg. Je t'enverrai l'email, il n'y a pas de problème. Ouais,
c'est
l'album qui a fait. L'album s'appelle High. L'album s'appelle High Country Snows, je ne sais pas
sûrement la réponse.
Et c'est vraiment magnifique.
Le New Nashville 4 avec une palanquée de grosses pointures, mais tu vas voir, tu ne seras pas déçu.
Génial, ah bah ouais, merci du tuyau.
Carrément.
Donc oui, il y a des liens entre le bluegrass et la country.
Oui.
Donc après, voilà. Mais c'est vrai que du coup, Last Train to Georgia.
Georgia on the Fast Train.
Georgia on the Fast Train. Last Train, je pensais Last Train, ouais. Tout ça en fait non, Fernando.
Morceau de Billy Joe Shaver, ouais.
Bah là, nous, on lui donne une touche quand même assez bluegrass.
Ouais, ouais.
Tu vois. Donc voilà. Enfin, Will, je sais pas quelles sont ses affinités avec le bluegrass, mais
c'est un morceau rock, je sais pas.
C'est traditionnel
pour moi. Pour moi aussi, je te rassure. Enfin, je te rassure pas.
La première fois qu'on l'a vu, il tient un redneck. C'est ça un peu, hein.
Ah ouais, voilà.
La salopette et
ça,
tout.
Ça, c'était il y a longtemps, t'as vu.
Le bouilleur de cru, enfin, qu'il n'y a plus que.
Ah ouais, ouais, avec l'alambic sous le bras. Alors, il y a tout le monde.
Ouais, c'est génial.
Tu nous as vu où la première fois?
À Évreux.
Oui.
C'est le rassemblement Harley Davidson.
C'est le dernier concert qu'on a
fait. Derrière, là,
Tu vas passer à Pontivy, au Mefes.
Ouais.
Bah ouais, puisque on avait fait une interview ensemble, à l'arrière.
C'est bien. Ah, Mefes, c'est sympa. Ouais. Il y a eu 2 ans et demi de pause. Hein, donc.
Ouais.
Ça va,